Alors nous allons continuer notre étude sur le livre de Néhémie. Nous avions vu la dernière fois que Dieu avait répondu à la prière fervente de Néhémie, et Dieu avait répondu d'une manière, comme c'est souvent le cas, d'une manière inhabituelle ou en tout cas d'une manière créative. Et nous avions étudié le dialogue qui s'est établi entre Néhémie et son roi. Et puis maintenant, on rentre dans une autre étape, c'est que Néhémie a rencontré un besoin, il a été au courant de ce qui se passe à Jérusalem, il a eu un fardeau sur le cœur suite à ces nouvelles, il a prié Dieu, Dieu ouvre des portes, notamment le fait que le roi accepte que Néhémie parte, mais pas tout seul en plus, avec des sauve-conduits, avec de l'argent, ou en tout cas les moyens de reconstruire la ville, où il pouvait avoir le bois du Liban, etc. Donc il y avait vraiment une bénédiction importante. Et puis maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il va se déplacer, et il va voir là-bas ce qui se passe réellement. Parce que pour l'instant, il n'a eu que des témoignages auditifs. Il n'y avait même pas d'appareil photo, ni de caméra, donc voilà, il a entendu des choses. Peut-être qu'il avait certaines idées préconçues. Je rappelle qu'une grande partie du peuple, quand ce peuple est retourné d'exil à Jérusalem, a souvent été déprimé en voyant la situation à Jérusalem, les ruines du temple, etc. Il s'imaginait peut-être que le travail allait être plus facile. Et donc si ça arrive au peuple, ça peut aussi arriver aux dirigeants. Mais en tout cas, on voit que Néhémie, lui, a une manière de marcher dans le plan de Dieu qui est sage, humble, spirituelle et à l'écoute de Dieu. Et donc, on va voir maintenant au chapitre 2, à partir du verset 1, du verset 11. Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 11, ce qui va se passer. Donc, le passage commence ainsi. « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. » Je pense pas que ce détail soit un hasard. Nous savons que 3 jours est un symbole, souvent, est une illustration spirituelle dans la Bible. 3 jours, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du temps nécessaire pour la mort et la résurrection. Dans tous les projets que Dieu peut nous accorder, et je dirais ce qui est peut-être difficile à accepter pour nous, c'est quand ça vient de Dieu, quand c'est un projet de Dieu. On a du mal à accepter que ce projet passe par la mort, parce qu'il vient de Dieu. On peut comprendre, dans une certaine mesure, que nos besoins, nos préférences, nos idées personnelles doivent passer par la croix, mais quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu communique une vision, quand Dieu parle à travers d'un verset, d'un témoignage ou autre, ou par le Saint-Esprit, et que du coup on est porté par ce projet divin, nous qui recherchons la volonté de Dieu, on est encouragé, et parce que ça vient de Dieu, et parce que nous acceptons ce que Dieu nous propose, on a l'impression que ça va être du coup facile. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, on peut même parler de façon ultime de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, Jésus-Christ, pour faire un jeu de mots ou presque une blague, Jésus n'a pas été attendu comme le Messie. Première fois dans l'histoire humaine que Dieu s'incarne, que Dieu vient, et il faut voir comment il a été reçu. Et les 3 ans qu'il a passé sur la terre, est-ce qu'il était dans le plan de Dieu? Absolument. Et pourtant, beaucoup de choses ont dû passer par la croix, même dans la vie de Jésus. Ses relations avec les apôtres, par exemple. Dans un premier temps, les apôtres le suivent, et même pas que les apôtres, les disciples, plein de gens. Et puis les relations ont dû être testées, même pour Jésus-Christ. Et de façon ultime, au bout de 3 ans, sa relation avec l'apôtre Pierre, qui l'a abandonné, qui l'a renié. Seul l'apôtre Jean était au pied de la croix. La relation avec ses parents, notamment avec sa mère, on voit qu'elle n'était pas forcément en phase avec ce que lui vivait. Nous, on lit ça comme presque une anecdote. Vous vous rappelez le passage où Marie et sa famille, ses cousins, viennent le chercher en disant « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et il répond « mais non, ma famille, ce sont ceux qui me suivent. » Bon, on lit ce passage, mais derrière cela, il faut y mettre toutes les années dans lesquelles Jésus a grandi avec sa maman. Il a grandi, il a été éduqué par ses parents, et eux ont découvert qu'il était le Messie. Et donc voilà, on connaît le passage de Luc où il est dans le temple à l'âge de 12 ans, et là aussi il y a une tension. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a eu des oppositions, même au sein de sa famille. Et pourtant, il a continué d'aimer, et il a continué d'accomplir le plan qui était pour le plan de son père qui était pour lui. Et après les apôtres, aussi on peut imaginer que, alors qu'ils ont été appelés par Dieu, équipés spirituellement, parce qu'ils avaient tous les dons, don de langue, don de guérison, don d'interprétation des langues, ils avaient les yeux ouverts sur les Écritures, enfin, c'était extraordinaire le ministère qu'ils avaient. Mais que de combats, que de difficultés. Et on peut après parler de David, oui, il est oint comme roi par Samuel, on fait la fête. Mais après, des années dans les cavernes, vous voyez. Et pourtant, tous ces gens-là étaient dans le plan de Dieu. Moïse, pareil, il est appelé par Dieu en haut d'une montagne, il va en Égypte. Déjà, ça dure un an avant que le peuple soit délivré. Mais à la limite, on peut se dire, bon, c'est le royaume d'Égypte, ça a été quand même assez rapide. Mais après, 40 ans dans le désert, avec un peuple qui grince des dents, et des combats perpétuels, etc. Alors, il y a eu des bénédictions, bien entendu, notamment le fait qu'il ait pu recevoir les Écritures, il a écrit le Pentateuch. Mais tout ça pour vous dire que dans le plan de Dieu, même quand c'est dans le plan de Dieu très souvent nécessite que son plan passe par la croix et ressuscite. Et vous savez, que ça soit dans ma vie, mais je sais qu'autour de moi, j'étais pas le seul, il y avait d'autres personnes qui vivaient ça. Certains d'entre nous étions appelés à l'Institut biblique, à devenir missionnaires, pasteurs, on était enthousiastes, on avait brûlé les ponts derrière nous. Et en même temps, il a fallu continuer de marcher par la foi, même durant cette période de formation. C'est pas parce qu'on était dans le plan de Dieu que c'était facile. Des fois, il y avait des moments où on avait envie d'abandonner, on était découragé, déçu de la part de certaines personnes. Mais pourtant, il fallait garder au fond de soi cette lumière qu'on avait reçue, qui, on avait l'impression qu'il s'éteignait, mais le souvenir quand même d'avoir vu ce brasier dans le cœur, ça nous amenait à attendre la résurrection. À attendre la résurrection. Et ça peut être la même chose dans un mariage. Vous pouvez être dans le plan parfait de Dieu, vous avez fait les choses en règle, vous n'avez pas pratiqué la fornication avant, vous avez respecté le corps de l'un et de l'autre, vous êtes mariés dans la piété, avec les conseils pastoraux, sans précipitation, pas en se disant « bah moi je sais déjà, je suis chrétien depuis longtemps ». Non, demander conseil avant de se marier. On peut faire tout dans les règles. Mais il viendra un temps où peut-être, dans sa permissivité, Dieu amènera la relation dans le mariage à passer par la croix. Pas parce que ce sera une malédiction de la part de Dieu, simplement parce qu'il va vouloir quelque chose de plus grand encore. Il va vouloir que cette relation mue pour une croissance spirituelle. C'est un mystère, le travail de Dieu. Parfois, vous avez des missionnaires qui sont dans le plan de Dieu, qui sont dans la volonté géographique de Dieu, qui sont fervents, qui sont intègres, qui vivent devant Dieu réellement. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ils le souhaiteraient. Ça va prendre du temps avant que la fleur puisse éclore. Et donc Néhémie lui arrive à lui... Alors ça dure pas longtemps là, ça dure 3 jours, mais on sait déjà avant qu'il a attendu 3 mois avant la réponse à ses prières. Enfin, vous voyez, il y a tout un processus. Et ça va toucher un autre point et qu'on voit aussi dans le livre d'Esdras. Donc c'est une période qui est similaire, hein. C'est un livre post-exilique. Et il est dit en Esdras 8:32, « Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. » Pareil. Pareil. L'attente. Et déjà, j'aimerais commencer par un point, enfin j'ai déjà dit certaines choses, mais un point important par rapport à ce passage, c'est que la vie par la foi n'est pas synonyme de précipitation. La vie par la foi n'est pas synonyme de précipitation. On va pas être là, Dieu m'a parlé, j'y vais, je fonce, et tout va bien se passer. Accomplir le plan de Dieu, ça dépend des fois. Des fois, il faut saisir les opportunités, parfois, il faut racheter le temps, il faut pas attendre. Mais parfois, surtout dans des projets qui impliquent l'aide d'autrui, une équipe, un peuple, ça va demander de la réflexion, de l'organisation, et donc de réfléchir. Et je parlais du mariage tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Un mariage, ça se prépare, ça se réfléchit. L'implantation d'église, ça se réfléchit. Commencer à exercer un ministère, ça demande de la réflexion. Comment je vais faire les choses? Et donc, il est important de continuer d'avoir la foi, c'est-à-dire que cette apparente inactivité ne signifie pas incrédulité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La foi, c'est d'ailleurs souvent quand rien ne se passe qu'elle doit s'exercer. Et puis par moments, elle s'exerce dans une prise de décision, dans une action, c'est vrai. Mais parfois, la foi s'exerce quand il n'y a rien à faire, mais qu'on continue de croire Dieu, de s'attendre à Dieu. Et encore une fois, c'est que les plans de Dieu doivent passer de la mort à la vie. Ensuite, au verset 12, il nous est dit, donc après s'être reposé, enfin avoir passé 3 jours à Jérusalem, verset 12, toujours au chapitre 2, « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Déjà, une chose que on peut remarquer au début de ce passage, donc au verset 12, il prend avec lui quelques hommes, mais il n'a dit à personne pourquoi il est ici. Et là, vous avez aussi une stratégie très importante que Jésus va faire plusieurs fois. C'est-à-dire que Jésus, à certaines occasions, va agir ou dire certaines choses sans forcément expliquer pourquoi il fait les choses. Par exemple, c'est le contraire, c'est une non-action qu'il fait. Vous vous rappelez la femme syrophénicienne, quand elle mendie, etc. Jésus, à l'inverse de ce qu'il fait habituellement, ne parle pas, ne dit rien, n'agit pas. Mais en réalité, il agit en faisant ça. C'était une décision de sa part. Mais c'est vrai que ça peut être troublant, parce que quand on voit à Jéricho l'aveugle qui crie en disant « Fils de David, aie pitié de moi », il dit tout de suite « Allez me le chercher ». Mais là, devant cette femme, il ne dit rien. Pourquoi ? Parce qu'il a une stratégie derrière. Il est entouré d'hommes, mais il aurait très bien pu leur dire « Voilà, cette femme, c'est le symbole du peuple des gentils qui va aussi obtenir le salut, et vous allez voir, tout comme j'accomplis des miracles en Israël, je vais accomplir des miracles pour cette femme, alors qu'on se trouve sur le territoire de Tyr et Sidon. » Il aurait peut-être bien les enseigner de cette manière. Mais il ne fait rien. Et du coup, les apôtres remplissent l'espace et le vide. Et eux, ils se mettent à parler. Et qu'est-ce qu'ils disent ? On va la chasser, elle nous importune. Et puis Jésus, quand il commence à parler, il est dur avec cette femme. Il va presque à contre-courant de ce qu'il fait habituellement. D'abord parce qu'il va permettre à cette femme d'exprimer sa foi, mais aussi il va enseigner les apôtres. Parce que, en réalité, la scène est un enseignement pour les apôtres, mais c'est la bouche de cette femme qui va les enseigner, ce ne sera pas sa bouche à lui. Puisque c'est elle qui va reconnaître que Dieu est gracieux, puisqu'elle dit, même les miettes, on peut les manger, nous. Oui, tu es venu pour nourrir les brebis d'Israël, mais même nous, les gentils, les païens, rien que les miettes suffisent pour être nourris, pour être vivifiés. Et donc, par son inaction, en fait, Jésus agit sans rien dire à personne. Vous avez comme ça plusieurs scènes où Jésus dit des choses sans forcément tout expliquer. Ce qui fait que ça va semer le trouble, mais en même temps, ça va permettre un enseignement. Là, dans le cas de Néhémie, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il dit à personne pourquoi il est là. Mais lui, il a un besoin, on le voit un peu plus loin, verset 12, « Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire. » Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut reconstruire les murailles de Jérusalem, reconstruire les portes. Donc, il a un fardeau sur le cœur. Donc, du coup, il a besoin de voir un petit peu l'état du chantier. Mais il va pas y aller tout seul. Il va y aller avec des personnes qui sont là, présentes. Et en faisant ça, indirectement, ces personnes-là vont commencer à réaliser qu'il y a un besoin. C'est-à-dire qu'en suivant Néhémie, elles vont voir par elles-mêmes ce besoin. Et c'est exactement comme ça qu'on doit faire aussi dans certains cas. C'est-à-dire que si vous, des fois, vous dites à quelqu'un, tiens, on va faire ceci, tiens, on va faire cela, et que vous essayez de leur expliquer, de visualiser le besoin, l'action que vous allez entreprendre, eux ne voient pas, ils vont pas forcément vous suivre. En revanche, vous les emmenez avec vous, ils vont voir le besoin. Pour prendre un besoin et aussi la possibilité. Prenons un exemple. Très souvent, moins maintenant, ça a changé, mais pendant très longtemps dans les églises françaises, on évangélisait très peu dans la rue parce qu'il y avait cette idée que, un, ça n'intéressait personne, deux, qu'on allait être pris pour des témoins de Jéhovah ou des Mormons, donc ça ne marchait pas et qu'on ne serait pas écouté. Et si vous dites ça à un nouveau converti peut-être ou à quelqu'un, un quidam, peut-être chrétien qui a jamais pratiqué l'évangélisation dans la rue, il va vous dire « mais personne ne nous écoutera ». Donc des fois, vous avez beau l'expliquer, ça ne fonctionne pas. En revanche, si vous dites à la personne « viens avec moi », alors vous n'allez peut-être pas dire que vous allez évangéliser, mais imaginons que vous alliez faire une visite chez quelqu'un, faire des courses, et en fait vous allez évangéliser en faisant des courses. Vous allez évangéliser sur le trajet. C'était pas prévu au programme, mais la personne va voir que c'est possible. Elle va voir le besoin. Et c'est pour ça que former des disciples, c'est pas uniquement des heures de cours de 19h à 22h, par exemple, c'est aussi un mode de vie. Combien de fois nous avons eu des occasions, moi-même j'ai appris ou j'ai pu apprendre à d'autres, on fait un voyage, on va quelque part et puis on s'arrête à une station-service et on peut témoigner. On est dans la rue, on est dans le métro, il y a une possibilité d'annoncer l'évangile. Et ceux qui ne l'ont jamais fait voient la scène. Et du coup, ça rentre dans le domaine du possible. De la même manière, on peut parfois prier pour certaines choses et les gens vont nous regarder en disant « mais ça marchera jamais ». Et par notre vie de prière, les gens vont voir que c'est possible. Et donc ça, ce point est très très important. De ne pas forcément tout dire. Quand vous êtes... vous prenez le cas des parents. Ça, c'est un exemple un peu différent, évidemment, parce qu'il y a une question de maturité qui est nécessaire, qui nécessite le silence. Mais lorsqu'on prend des décisions pour nos enfants, ils vont pas forcément comprendre tout de suite. Des fois, ils voient pas trop l'intérêt de ce qu'on leur propose. Je parlais avec un parent dernièrement, vous pouvez avoir un parent qui a à cœur d'inscrire son enfant à un camp de jeunes, peut-être que le jeune n'a pas envie. Et peut-être que ça ne servira même à rien de lui expliquer ou d'essayer de vendre le projet. Mais par son expérience dans le camp de jeunes, il va découvrir certaines choses. Et donc, être responsable, c'est pas forcément dire « je sais tout ». C'est parfois garder le silence, mais agir, faire ce que nous avons à faire. Et en le faisant, nous allons communiquer une vision. Et donc là, on voit qu'il ne dit à personne pourquoi il est là. D'ailleurs, les gens de Jérusalem, ces juifs qui habitaient là, ils devaient se dire, mais ils savaient sans doute que Néhémie était chanson du roi, pourquoi il est venu là? Ils ont dû se poser des questions. Et là, à un moment donné, de nuit, c'est-à-dire que, vous savez, un projet, quand je disais tout à l'heure, la foi n'est pas synonyme de précipitation. Non seulement c'est pas synonyme de précipitation, mais des fois, il n'y a pas à claironner la vision qu'on a. Moi, combien de fois j'avais une intuition, des projets ou autres, avant que j'en parle à l'Église, il a pu se passer des mois. Pourquoi ? C'était pas le temps. Des fois, il y a des raisons qui expliquent pourquoi on ne le dit pas. Des fois, on ne sait pas, mais on n'a pas la liberté d'en parler. Et puis Dieu va ouvrir des portes, une discussion, un temps de questions-réponses, un événement qui fait que vous avez déjà ça dans votre cœur et là, ça y est, ça commence à éclore. Et donc là, on voit que sans avoir dit à personne et en plus de nuit, discrétion. C'est intéressant parce que je ne suis pas contre le fait qu'on puisse témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. On est d'accord là-dessus. Mais Pour avoir fréquenté un peu de nombreux chrétiens, et notamment dans le cadre de l'Institut biblique, où on voit des gens d'horizons différents, qu'est-ce qu'on peut entendre comme phrase « Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a donné ça » Et non seulement les choses n'arrivent jamais, mais surtout des fois on sent que c'est plus du domaine du rêve que de la sagesse. Vous savez, en admettant que Dieu nous donne une vision, un projet, quelque chose, c'est pas là simplement pour nous occuper le temps ou pour nous faire plaisir. C'est Dieu qui nous confie une tâche. C'est Dieu qui nous confie une tâche. C'est pas anecdotique. C'est à la fois c'est un privilège et en même temps c'est on rentre dans le domaine du sacré. Et donc on voit que Néhémie là marche, je dirais, à pas feutrés. Vous savez, un peu comme lorsque l'ange de l'Éternel, le capitaine de l'armée de l'Éternel, dit à Josué, ôte tes sandales, car le terrain sur lequel tu te tiens, il est saint. Moïse aussi a entendu cette phrase. Et on voit dans l'attitude de Néhémie la même attitude. Il n'arrive pas en disant, hé, vous avez vu un peu la fidélité de Dieu? Il m'a laissé, j'ai eu une vision, j'ai eu à cœur de reconstruire une muraille, j'ai prié, regardez comment Dieu a répondu, j'ai pu venir et regardez, en plus je viens avec tout ce qu'il faut pour reconstruire les murailles. Voyez un peu la fidélité de Dieu? Non, il arrive en silence. Les choses se font, mais on va y aller progressivement. Et donc, il dit à personne ce que Dieu lui a mis sur le cœur, et il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon. Ça, je vous l'ai lu tout à l'heure. Alors oui, la fin du passage dit « Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » C'est intéressant parce que, bon, je suis pas trop bricoleur, mais je peux imaginer. On voit là, Néhémie, il réfléchit à ces portes consumées par le feu. En d'autres termes, comment on va les reconstruire? De quoi ai-je besoin? Encore une fois, la foi, non seulement c'est pas la précipitation, mais c'est pas non plus le déni. Le déni, c'est Dieu sera fidèle. Allez, on va imposer les mains sur les portes et elles vont presque se reconstruire toutes seules. Non, il est en train de regarder aux difficultés. Eh, on sort la nuit, on fait pas de vagues, on va pas forcément amener le peuple à déprimer quand on va leur faire la liste de tous les problèmes qu'il y a. J'y vais tout seul, je prends quelques hommes avec moi qui sont même pas au courant, et puis je vais faire un petit peu l'inventaire des difficultés. Et encore une fois, tout comme le fait de pas se précipiter, c'est pas un manque de foi, le fait de répertorier les difficultés, c'est pas un manque de foi non plus. Et d'ailleurs, de temps en temps, ça nous permet de mieux prier. Quand on fait le... Ce qu'il ne faut pas, c'est faire la liste et déprimer. Là, c'est sûr. C'est pas cette attitude-là. Mais si vous voulez, avoir la foi, c'est une chose. Et quand on a la foi, je dirais presque, les difficultés ne sont pas un problème. Ça va peut-être demander plus de temps, plus de travail, plus de tracas, soit. Mais si on a la foi, qu'il y ait une difficulté ou sans, est-ce que le projet va aller au bout? Dans les deux cas, oui. Puisque Dieu nous donne pas la foi pour régler 50 problèmes, il donne la foi pour accomplir le projet, peu importe le nombre de difficultés. Et c'est pour ça que parfois, dans un projet, il faut y aller en sautant les obstacles, en disant « je sais pas où est la ligne d'arrivée à ce projet, mais je crois qu'elle y est, cette ligne d'arrivée ». Vous savez, dans les projets de Dieu, il y a différents cas, en termes de temps, de difficultés, de moyens nécessaires, de nombre de personnes, etc. Mais je compare ça à une course. Si vous faites un 100 mètres, c'est peut-être difficile, il va falloir se battre, mais vous voyez la ligne d'arrivée, vous savez où vous en êtes. Quand vous faites un marathon, la ligne d'arrivée, vous la voyez pas avant un moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas atteindre la ligne d'arrivée. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes appelé à courir un marathon, vous franchirez la ligne d'arrivée même si vous ne la voyez pas. Et même si le temps paraît long. Dans les projets de Dieu, c'est la même chose. Il y a des projets à court terme, et donc on voit la ligne d'arrivée, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on la voit qu'on va l'atteindre, entre parenthèses. Et puis il y a d'autres projets, c'est sur des années et des années. je pense à l'édition, c'est quelque chose de lent. C'est on y va. Et quand on se dit, oh non, mais attends, quand est-ce qu'on aura fini? On aura fini. Enfin, d'abord, on n'aura jamais fini parce qu'il y a toujours des choses à publier. Mais je parle même en termes d'un livre ou d'un, je sais pas, une liste de livres. Ça va prendre du temps. Ça va demander de l'organisation. Il y aura peut-être du découragement. Mais on y arrivera. Et on avance. Et on ne nie pas les difficultés. On les liste. Mais ce ne sont pas les difficultés qui vont nous faire arrêter pour autant. Et c'est pour ça que c'est bien de les lister. Parce que comme on a la foi, on va devenir un peu plus sage. J'aime ce passage dans l'Évangile de Luc où Jésus dit « Si vous avez une tour à construire, asseyez-vous et évaluez le coût. » Je trouve que c'est le passage le plus antinomique par rapport à ceux qui pensent que, vous savez, il suffit d'avoir la foi. Et si tu calcules, c'est que tu n'as pas la foi. Jésus dit le contraire. Et dans le contexte, vous savez de quoi il s'agit ? De quoi parle Jésus quand il dit de bien calculer à la dépense pour reconstruire la tour ? Quel est le sujet de son discours ? Quelqu'un le sait ? C'est si quelqu'un veut me suivre. C'est drôle parce que quelque part on pourrait dire bah Seigneur je veux te suivre, le Seigneur va dire bah super. Là c'est comme si il refroidit un peu l'auditoire en disant attends réfléchis. Et moi je sais que mon pasteur avait fait ça notamment une fois quand je me sentais appelé à étudier la parole de Dieu le dimanche suivant. Bon je vais à Baltimore, j'arrête tout etc. Et je me rappellerai toujours. Il était là en train de faire cuire des pâtes, il touillait la marmite. Et puis il disait, oui, on va en discuter plus tard. Et en fait, je suis jamais allé à Baltimore étudier. Dieu avait un autre plan. Mais là, c'était la fougue de la jeunesse, de la nouvelle conversion. Donc voilà, et c'était bien comme attitude. Mais j'avais besoin d'être canalisé. C'est que j'allais pas, comment dire, devenir ce que je suis devenu en un tour de main. Et donc, il fallait lister les difficultés. S'asseoir et de dire « Ok, tu veux me suivre, mais tu te rends compte du coup ?» Pour les apôtres, entre parenthèses, ils ont payé le prix. En termes de persécution, d'années de prison, de douleur, souffrance physique, rejet émotionnel, etc. Je veux dire, il y a eu un prix à payer. Et encore une fois, évaluer le coût, puisque Jésus nous enseigne ceci, c'est pas manquer de foi, c'est de dire « Le coût est important, mais je crois quand même. » Donc en fait, d'une certaine manière, ça nous amène à avoir plus de foi. Certains veulent pas évaluer le coût parce qu'ils ont peur de perdre la foi. Et donc, ils avancent à l'aveugle. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses que vous... Si vous voulez avoir un ministère à gérer sur le long terme, être dans une... faire quelque chose, etc., ça va demander de la réflexion à chaque fois. C'est-à-dire que Dieu va utiliser nos talents naturels... La vie ordinaire, je dirais, il y a comme une routine, d'une certaine manière, dans la vie chrétienne aussi. Et donc, vous savez, David a pu envoyer parfois des espions. Moïse a envoyé des espions. Le problème de ce passage avec les espions, c'est que les espions n'ont pas eu la foi. Mais dans le texte, il n'est pas reproché à Moïse d'avoir envoyé des espions. Le problème, c'est le résultat qui a lieu. Pourquoi ils ont envoyé des espions ? Pour calculer le coût, pour avoir la sagesse, sachant en plus que une des erreurs que parfois a faites notamment Josué ou David de temps en temps, c'est que en n'écoutant pas la parole de Dieu à chaque combat, parce qu'il fallait une stratégie différente à chaque fois, ils ont perdu des batailles. Et donc il ne s'agit pas d'aller au combat en disant l'Éternel est avec nous. Non, il fallait se poser et dire à l'Éternel, Seigneur, comment tu veux qu'on s'y prenne ? Et en fonction de la ville, la stratégie était différente. Vous voyez, la foi, c'est... Des fois, ça m'est arrivé de discuter avec certaines personnes, même des pasteurs ou autres, vous discutez en disant, mais comment tu vas faire ? Ah non, non, mais si on commence à rentrer là-dedans, non, mais Dieu sera fidèle. Ok, bon, ben Dieu sera fidèle. Mais il sera fidèle devant quelle situation ? T'en sais rien encore. T'as même pas listé. Donc c'est une foi qui est floue. Et on voit que Néhémie, comme d'autres, fait le diagnostic de la situation. Il espionne d'une certaine manière. Et alors vous allez me dire, quelle est la différence entre l'espionnage pieux et l'espionnage de l'incrédulité ? C'est que l'espionnage pieux, on garde toujours dans le cœur ce que Dieu y a déposé. peu importe ce que l'on peut constater par la vue. Ça ne s'enlève pas le feu. Et c'est ça qui compte. Et ça nous rend diligents. Ça nous amène aussi, parfois, ça c'est vrai, devant la liste des complications, ça nous amoindrit, ça nous humilie. Et peut-être qu'en un premier temps, on pensait que ça allait être plus facile, et du coup, ça devient plus difficile, et ça nous amène à compter plus sur Dieu. Donc des fois, c'est même salutaire d'être objectif devant la situation. Et donc, si on liste difficultés, qu'est-ce qu'on doit faire? On oppose en face les remèdes de Dieu, notamment dans la prière, on prie précisément, etc., etc. Ensuite, verset 14. « Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où passait la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. » Donc vous voyez, vraiment incognito. Il réfléchit, il est devant Dieu, il porte son projet devant Dieu, il réfléchit. Et vous savez aussi pourquoi c'est important de faire ça, cette réflexion et cet état des lieux. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas pour enlever la foi. En revanche, très souvent, vous allez être devant des gens qui, eux, n'ont pas la foi devant le projet que Dieu vous a mis à cœur. Et eux vont vous questionner, eux vont vous interpeller, et eux vont vous balancer la liste des impossibilités. Et il est des fois préférable de la connaître en avance, cette liste, pour savoir comment répondre. Vous comprenez le point? C'est un peu comme là, on déménage. Si je m'intéressais pas aux travaux, au coût des travaux, comment faire, etc., je dis, bon, allez, on déménage, comment? Oh, Dieu sera fidèle. Avec quel argent? Dieu sera fidèle. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle couleur? Oh, c'est la volonté de Dieu, on verra bien. Les gens, au bout d'un moment, vont m'interpeller en disant, non, mais il y a ça qui va pas. Et donc, même si on a la foi, on est obligé de réfléchir. Et on est obligé de faire un état des lieux, prendre conseil aussi, si besoin est. Et ce qui fait que quand il y aura non pas de l'opposition, mais des interrogations pour ceux... Alors des charges, et ça, faut avoir l'humilité de l'accepter. Et je dirais que les membres d'une assemblée doivent avoir cette humilité-là pour que ça fonctionne. Je m'explique. Néhémie, il a reçu là un fardeau de la part de Dieu. Combien d'autres personnes l'ont reçu, ce fardeau? Zéro, il n'y a que lui. Donc, d'une certaine manière, il est un peu normal que lorsqu'un dirigeant présente quelque chose que Dieu lui a inspiré, que les autres tombent des nues puisqu'eux n'ont pas reçu cette vision de Dieu. Et donc, ils vont la recevoir par cet intermédiaire qui a à cœur tel ou tel ministère ou telle façon de faire. Et donc, ça demande l'humilité pour ceux qui n'ont pas reçu la vision d'essayer d'entendre la voix de Dieu au travers de celui qui l'a eue. Et mais en même temps, le rôle du dirigeant, Néhémie, c'est de communiquer correctement la vision. Pas en devenant naturel ou en y apportant des réponses forcément naturelles, mais en étant conscient des difficultés et dans sa manière dont il va répondre, il va susciter la foi dans ceux qui ne l'ont pas encore. C'est pour ça que le déni ne peut pas fonctionner, parce que ceux qui seront à côté de vous, eux ne vivront pas dans le déni, et vont mettre les points sur lui en disant ben, « comment on va faire telle ou telle chose, etc. etc. » Et donc, ça c'est un point important. Mais le verset 17, regarde, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes ?» Donc là, ça y est, il commence à parler, à communiquer la vision. « Vous voyez dans quel état où nous sommes ?» C'est un peu comme si, dans une église, on pourrait dire « Vous avez vu ?» Depuis combien de temps il n'y a pas eu de conversion dans l'Église? Alors là, on se regarde, on s'interroge, et puis on se dit, ah bah oui, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de conversion dans l'Église. Et là, on va commencer à parler évangélisation. On va commencer à encourager les gens à témoigner autour d'eux, dans leur travail, auprès de leurs amis, peut-être re-annoncer l'Évangile à des membres de famille, de prier. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai. Oui. Un peu comme là, vous avez vu dans quel état on est, les portes qui ont brûlé, les murailles qui sont tombées. Peut-être que dans une autre église, ce sera de dire, vous vous rendez compte que on prêche presque plus dans cette église, il n'y a que des messages de 10 minutes, et le reste, ce sont festivités, joie de se retrouver, certes, mais la Bible, on ne l'explique plus. de faire un état des lieux pour communiquer une vision. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Vous voyez, c'est pas très enthousiasmant comme image. Mais en même temps, il fait une description précise. Il a vu, il a regardé, il a discerné, il a évalué, il a essayé d'avoir dans son cœur une pensée objective et maintenant il communique. Mais, et c'est ça la qualité d'un visionnaire, c'est qu'il y a la deuxième partie, il y a la solution. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est que maintenant, il ne parle pas simplement de la condition, je dirais, physique ou matérielle de la ville, il parle de la condition spirituelle. On ne sera plus dans l'opprobre. Et le peuple savait bien que c'était un peuple qui vivait dans l'opprobre. Il savait bien qu'il n'était pas au fait de leur gloire comme au temps de Salomon, de David ou autre. Et donc, ils vont faire un lien entre l'état de la ville et leur état spirituel. Tout comme un dirigeant, un prédicateur, un conducteur de ministère va faire un lien entre les situations concrètes, matérielles, je dirais, et l'état spirituel des choses. Ça peut être un agenda, un emploi du temps, la gestion des finances, les décisions qui sont prises. Pour dire, c'est pas simplement des lois, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est, regarde ton état derrière. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Vous savez, c'est un peu comme, on peut discuter avec des jeunes qui veulent pas aller, je discutais avec un autre parent aussi, des fois il y a des jeunes qui veulent pas aller au groupe de jeunes. Ils ont le droit de, ils sont libres. Ils peuvent ne pas y aller. Mais des fois, on peut leur poser la question, tu vas bien? T'es heureux? Avec les choses que tu fais par ailleurs? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Peut-être que se rapprocher de la parole de Dieu, ce serait pas mal. C'est pas simplement de lui dire, il faut lire ta Bible tous les jours. Mais par contre, de passer un temps fou à faire autre chose, je vais même pas faire la liste. Regarde l'état de ton âme, tu déprimes en permanence toute la journée. Tu veux pas que cette opprobre s'en aille? Ben moi, j'ai peut-être autre chose à te proposer. Mais ça demande tout ça réflexion, de voir l'état des gens, l'état des situations, l'état des faits. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qui a une valeur éternelle? Pourquoi suis-je ici? Et à partir de ce moment-là, prendre les décisions qu'il y a à prendre. Peut-être développer notre vie de prière, peut-être un peu moins parler, mais plus réfléchir avec Dieu. Peut-être se remettre en question, s'humilier, confesser ses péchés peut-être. Mais faire un état des lieux, parce que de toute façon, on reste le peuple de Dieu, tout comme là à Jérusalem, même dans l'opprobre avec des murailles détruites et des portes consumées par le feu, ça restait le peuple de Dieu. Et donc, il y avait toujours une possibilité de rédemption. Ça, c'est le privilège que nous avons par rapport à d'autres personnes. On n'est pas mieux, mais on a des meilleures solutions. Et donc, on doit s'en saisir. Mais pour s'en saisir, il faut parfois faire un état des lieux. Sans culpabilité, c'est là. C'est pas de se dire, ah, pourquoi les portes sont consumées par le feu, ou ont été consumées par le feu. C'est non, elles ont été consumées, mais il va y avoir des nouvelles portes. Et d'ailleurs, Dieu a déjà pourvu par le bois que Néhémie s'est procuré par l'entremise du roi. Et donc, on continuera la semaine prochaine sur cette idée de garder en soi la vision dans un premier temps, la remettre à Dieu, réfléchir, regarder, présenter et intégrer les autres dans la vision. Parce que Néhémie n'allait pas reconstruire les murailles tout seul. Et ça, c'est la réalité du corps de Christ aussi. Que Dieu vous bénisse.